Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. On ira très bientôt au point de presse du gouvernement. Legault, ils seront questionnés assurément sur Noël parce que là, même si la santé n'est une compétence provinciale, au fédéral, on semble dire que c'est peut-être pas une très, très bonne idée que de se réunir comme ça à Noël, ne serait-ce que 4 jours. Santé Canada qui a fait une sortie discrète pour dire que la chose la plus sécuritaire à faire, c'était encore de célébrer Noël dans notre bulle immédiate. La peur aussi d'infecter nos grands-parents d'un côté, on veut les sortir de leur isolement en allant peut-être les chercher dans leur résidence, chez eux, dans leur CHSLD. Mais ce sera quoi les répercussions de tout ça? Est-ce qu'on devrait le faire pour le temps des fêtes? Est-ce qu'on devrait aller chercher grand-maman, grand-papa pour les désennuyer? Puis dans quel état ils vont être quand ils vont retourner dans leur résidence? Est-ce qu'on met à risque les autres personnes parce qu'ils auront été à notre contact? C'est beaucoup de questions quand même qui sont mises sur la table à cause de cette opportunité qu'on a qu'on nous a offerte de fêter 4 jours, 10 personnes, des restaurateurs aussi qui s'en posent des questions et qui essaient de trouver, si on veut, les cracks possibles. Ils se disent, si on a le droit de se réunir 4 jours, pourquoi on permettrait pas aux restaurants de rouvrir eux aussi du 24 au 27 décembre? Est-ce que ce serait envisageable? Il y aura beaucoup de questions, à mon sens, à ce sujet aujourd'hui au point de presse. La situation aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui continue d'être préoccupante. On est à plus de 104 cas aujourd'hui, 1124 cas au Québec aujourd'hui. Donc, on se maintient encore en haut de la barre des 1000 cas par jour. Ça demeure préoccupant. On s'en va au point de presse.
Oui. Bonjour tout le monde. Je veux commencer par vous parler des infirmières puis le personnel du réseau de la santé. D'abord, vous dire que je suis très conscient que les 9 derniers mois ont été très difficiles pour le personnel, en particulier les infirmières, avec la COVID, la surcharge de travail. Et on veut actuellement, dans les négociations, trouver tous les moyens possibles d'alléger la tâche, entre autres, des infirmières. C'est très, très clair, là, c'est l'objectif numéro un, non seulement de notre négociation avec les infirmières, mais je dirais même, quand je regarde l'ensemble des négociations avec les 500 000 employés de l'État, la priorité, c'est vraiment, bon, de trouver comment on peut ajouter des infirmières. Évidemment, vous allez me dire, il faut les trouver, donc il faut s'entendre là-dessus. On peut bien décider demain matin d'ajouter beaucoup d'infirmières, mais si on affiche des postes puis qui sont pas comblés, ça changera pas la situation. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de trouver toutes sortes de moyens de mettre des incitatifs, incluant des incitatifs financiers, pour que plus d'infirmières choisissent de travailler à temps plein. Donc, actuellement, là, autant de notre côté, du côté des syndicats, on travaille très fort à trouver des moyens d'alléger la tâche. Puis moi, je le répète, là, je pense que tous les Québécois disent un énorme merci aux infirmières, au personnel du réseau de la santé. C'est impressionnant de voir leur force, leur courage après 9 mois. Et donc, on est avec vous. Maintenant, si les Québécois veulent aider les infirmières, ben la bonne façon d'y arriver, c'est de réduire les risques d'attraper la COVID et donc de se retrouver à l'hôpital. On a déjà assez de monde dans nos hôpitaux, on n'a pas trop de personnel, donc faut prendre toutes les mesures nécessaires pour enlever de la pression sur les infirmières, sur le réseau de la santé. Actuellement, on a une situation qui est assez spéciale parce que, contrairement à la première vague, les endroits où il y a plus de virus, c'est pas les grands centres, c'est pas Montréal, c'est même pas Québec. En fait, il y a 6 régions ou sous-régions où il y a des difficultés. Bon, évidemment, Il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a envoyé du personnel, donc il y a du personnel de d'autres régions qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, ça met indirectement de la pression sur les autres régions. Et il y a du travail qui se fait autant du côté des soins que du côté du suivi. Donc, il y a des efforts à faire. Donc, moi, c'est une des régions, c'est la région où c'est le plus difficile. Moi, je demande à tous les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, si vous êtes capables, dans les prochains jours, les prochaines semaines, de rester à la maison, ben ça aiderait à réduire la pression. On voit au moins, le nombre de cas s'est stabilisé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a d'autres régions ou sous-régions aussi où il faut faire plus attention encore. Bon, d'abord, en Estrie, les RLS qu'on appelle Asbestos et Granit, il y a beaucoup de cas dans ces deux sous-régions-là. Évidemment, on continue à avoir beaucoup de cas en Gaspésie, à Côte-de-Gaspé, pour être précis. Il continue à avoir des problèmes Joliette et Lanaudière-Nord. On a un problème aussi à Matane, au bas Saint-Laurent, puis un problème aussi dans le coin de Sorel, en Montérégie. Donc, les six régions, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Gaspésie, Lanaudière-Nord, Bas-Saint-Laurent, puis Sorel, c'est vraiment là les coins où je demande aux Québécois si c'est possible de trouver tous les moyens possibles de rester à la maison. C'est ce qui est le plus important. Deuxième chose que je voulais vous dire, vous avez un graphique sur les différentes résidences qu'on a pour les personnes âgées ou en perte d'autonomie. Comme vous le voyez, ça va très bien dans les CHSLD. Bon, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Dans les ressources intermédiaires, ça va aussi très bien. Là où on a un problème, c'est dans les RPA. Bon, vous le savez, les CHSLD, ce sont les endroits où les gens ont le moins d'autonomie, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui sortent. Par contre, dans les RPA, ben ça peut être tout simplement des résidences, personnes âgées, puis il y a des gens qui rentrent, sortent. Et là, on le voit, là, en particulier aujourd'hui, regardez la montée, on a vraiment un problème dans les RPA. Donc, moi, je veux faire un appel spécial, on veut faire un appel spécial à tous ceux qui habitent dans des RPA. D'abord, quand vous recevez du monde dans vos appartements, c'est important de respecter le 2 mètres, de garder le masque. Puis si vous allez en visite, ben encore là, gardez le 2 mètres et assurez-vous que si vous allez dans les magasins, ben que vous portez le masque. Faut vraiment donner un coup de barre dans les RPA. Dans les 6 régions que je vous ai mentionnées, il y en a quelques-unes, c'est vraiment à cause des RPA. C'est là que ça a commencé, puis ça s'étend. Je veux revenir peut-être sur la vaccination. Christian, Dr. Arruda sont en train de préparer dès qu'on va recommencer à recevoir les vaccins pour être capable, dans toutes les régions du Québec, de vacciner le plus rapidement possible. Là, il y a un troisième vaccin qui pourrait être produit en grand nombre. On parle de milliards et qui aurait moins de difficultés pour ce qui est de la conservation à cause de la température. Donc, on peut être optimiste. Bon, évidemment, on met beaucoup de pression sur le gouvernement fédéral. On sait que dans certains endroits en Europe, aux États-Unis, on parle même de commencer à recevoir des vaccins avant Noël. Bon, nous, on n'a pas de nouvelles du fédéral. C'est le fédéral qui négocie avec 6 compagnies. On a très hâte de savoir la date où on va pouvoir commencer à vacciner. Évidemment, ça va être comme une nouvelle vie qui commence avec cette vaccination-là. Par contre, c'est pas parce qu'il y a un vaccin qui s'en vient puis que les bonnes nouvelles s'en viennent qu'il faut baisser les bras en attendant le vaccin. J'entendais la semaine passée le docteur Fauci aux États-Unis qui disait c'est un peu comme quand on va à la guerre, on veut pas être d'un dernier dans les mois juste avant que la guerre soit finie à mourir. Prenez pas de chance là, ça serait bien plate de dire à quelques mois de la fin de cette pandémie, ben je suis tombé au combat ou quelqu'un est tombé au combat parce que je l'ai infecté. Donc, faut rester prudent, évidemment, jusqu'à la vaccination. Autre sujet sur lequel je veux revenir, c'est le contrat moral qu'on a proposé jeudi dernier. Bon, je le répète, c'est un contrat qui a deux parties. D'un côté, on dit aux Québécois, si les choses se détériorent pas, vous allez pouvoir voir vos familles maximum 10 le 24, 25, 26 ou 27. Mais en échange, puis c'est important, il faudra qu'il y ait une semaine de quarantaine avant et après. Bon. D'abord, je reviens sur les 4 jours. La santé publique nous a dit, il y a 4 jours de disponibles, mais on veut qu'il y ait seulement 2 jours d'utiliser. Donc, 2 soirées sur les 4. Ça peut être ceux qui ont de la misère parce qu'ils prennent un verre, ben, laisser un jour entre les deux. Donc, une famille, une journée. 2 jours plus tard, c'est l'autre famille. Bon, puis évidemment, ça exclut les soupers qu'on peut faire, ceux qui habitent dans une maison. Là. Quand on dit 2, c'est 2 plus les soupers qu'on peut faire juste avec ceux qui habitent déjà dans la même maison. Mais je veux revenir sur la deuxième partie du contrat, c'est-à-dire la quarantaine pour une semaine. Il y a des gens là qui pourront pas être en quarantaine pendant une semaine avant le souper de Noël. Ces personnes-là, je suis certain qu'ils veulent pas aller infecter ou prendre le risque d'infecter des membres de leur propre famille, là. Donc, on va bien se comprendre, si vous êtes pas capable d'être en quarantaine une semaine avant, c'est mieux de ne pas aller au souper de Noël. Et il y a des gens qui ont dit, pourquoi une semaine, pourquoi pas 2 semaines? Ce que la santé publique nous dit, c'est que à l'intérieur de 7 jours, actuellement, on va développer les symptômes. Puis là, ben, je le répète, si dans la semaine avant le souper de Noël, vous avez des symptômes, ben il faut rester chez soi. Donc, on respecte le 1 semaine. C'est très important. Donc, peut-être un dernier sujet. Les vacances à l'étranger. J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Je comprends qu'il y a des gens qui ont peut-être pas le choix, pour toutes sortes de raisons, d'aller à l'étranger, là, mais d'aller dans un tout inclus, avec bien du monde. Rappelons-nous ce qui nous est arrivé après le congé scolaire au début mars. On a eu plein de Québécois qui sont revenus, qui avaient la COVID. Puis là, on peut bien dire, bon, c'est leur problème, qui se mettent en quarantaine pour 2 semaines, mais il reste que il y en a qui vont être malades, puis qui vont aller occuper des lits dans nos hôpitaux, puis faire travailler encore davantage le personnel du réseau de la santé. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée, là, d'aller dans des vacances à l'étranger dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tant que le vaccin est pas là, c'est pas recommandé du tout, du tout. Donc, je termine en vous disant, on touche au but, on voit la lumière au bout du tunnel. Moi, je suis convaincu qu'on est capable ensemble de passer au travers. Puis là, notre défi des prochains mois, c'est de garder le moral. C'était long, 9 mois, il reste encore des mois devant nous autres. Donc, gardons le moral. Good afternoon, everyone.
Oui, alors le premier ministre Legault qui est revenu en premier lieu sur cette entente de principe qui n'a pas été acceptée par la Fédération des infirmiers et des infirmières du Québec. Vous vous en rappelez, on a parlé souvent à la représentante syndicale qui disait que c'était pas juste une question de salaire. Là, oui, on demande plus d'argent, on demande plus de ressources, mais on demande majoritairement une restructuration de comment on gère les effectifs au Québec. Et on sait, on en manque des infirmières en ce moment. Là, je voyais Christian Dubé qui disait que son objectif était d'en engager davantage. Il faut en envoyer aussi. Si en région, la bonne nouvelle, on a appris qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont envoyé des effectifs là-bas. Mais il faut le dire, la FIC, il y a le gros bout du bâton en ce moment, faudrait pas trop en abuser. Là. Je pense que la population, on est tous d'accord pour se dire qu'à un moment donné, il faut s'entendre, puis il faut que notre système fonctionne bien. Là, ce qu'on apprend aussi, sans grande surprise, c'est que les situations au niveau des régions du Québec, c'est pas dans les grands centres qu'on a le plus de problèmes par rapport à la COVID-19. On a beaucoup de cas, c'est sûr, à Montréal, parce qu'on est beaucoup, mais au prorata de la population, il y a des régions qui sont plus problématiques que les grands centres. Je donne l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on pourrait aussi parler de la Gaspésie dans le coin d'Asbestos aussi. Et par rapport au CHSLD, on se demandait est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher notre grand-père, notre grand-mère? Peut-être pas. Les problèmes, par contre, ne semblent pas, en tout cas c'est ce que dit M. Legault, dans les CHSLD en tant que tel, ni dans les ressources intermédiaires. Ce serait dans les résidences privées pour aînés, là où les gens justement peuvent circuler plus librement, là où les personnes sont peut-être davantage autonomes, peuvent sortir faire leur commission, peuvent aller peut-être voir leur famille, prendre des marches. On demande vraiment la collaboration des gens à cet effet-là, respecter le 2 mètres de distance, sortir seulement pour les besoins essentiels. Petit détour aussi sur la vaccination. On sait là que du côté des États-Unis, on a parlé de vacciner des gens avant la période des fêtes. Et là, on se demande, nous autres, quand est-ce qu'on va avoir droit au vaccin? On le sait, on vaccinera pas tout le monde en même temps, mais on a quand même des recherches qui sont prometteuses par rapport au vaccin. On nous dit qu'on n'a pas de nouvelles du fédéral sur la date où on va débuter la vaccination. On s'en va aux questions.
Hier, l'Ontario nommait un général à la retraite pour s'occuper des opérations. L'Espagne, l'Allemagne ont mis de l'avant des plans très détaillés. À quel moment est-ce que vous avez l'intention vous-même de mettre un plan tout aussi détaillé avec la façon dont ça va se produire, qui va être priorisé, dans quels endroits? Et Dr Drouin, hier, évoquait le mois de janvier pour entamer l'opération. Est-ce que ça vous semble réaliste?
Vas-y. Bien, tout d'abord, ce que j'aimerais rassurer les gens, c'est que au Québec, on a toute une expérience en termes de vaccination qui remonte à plusieurs années. On peut penser à la H1N1, mais on peut penser aussi récemment et couramment tout le travail qui est fait par nos équipes pour la vaccination de l'influenza. Juste pour vous donner un exemple de ce qui se passe sur le terrain en ce moment, c'est plus de 200 000 personnes par semaine qui sont présentement vaccinées dans un contexte complètement différent de l'an dernier, c'est-à-dire que on vaccine maintenant avec la collaboration des pharmaciens et pour vous dire que on est très, très, très satisfait de... On est rendu à près de 800 000 personnes qui ont été vaccinées depuis le début de la période. Donc, le parallèle, pour la raison de laquelle je fais le parallèle dans votre question, M. Lavallée, c'est que on a commencé, il y a quand même déjà un bout de temps, à justement faire le parallèle pour nous, puis dire quels sont les bons coups que l'on fait présentement dans la vaccination de l'influenza dont on va avoir besoin en termes de personnes. C'est évident que lorsqu'on met certaines variables, puis j'ai des discussions avec la santé publique puis avec le premier ministre, dépendamment du niveau de à quelle vitesse on va recevoir les vaccins puis combien de vaccins, c'est sûr qu'il y a des scénarios en ce moment qu'on discute avec le bureau du premier ministre qui vont nous demander d'avoir plus que 200 000 personnes vaccinées par semaine, parce qu'il se pourrait que le nombre de vaccins soit encore plus important. Alors pour nous, ben est-ce qu'on va aller plus loin que par exemple avec les pharmaciens? Est-ce que d'autres ordres professionnels, on est tout en train de préparer ça? Ces discussions-là sont commencées et c'est ce qui fait que dans les prochaines semaines, pour nous, non seulement on va être prêt, mais je vous dirais qu'on est déjà prêt. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir l'information du fédéral, comme le premier ministre l'a mentionné. Mais je peux vous dire qu'on est allé chercher des personnes opérationnelles, parce que rappelez-vous pourquoi je pense que ça va mieux maintenant du côté du dépistage, pourquoi ça va mieux du côté de la vaccination. C'est parce qu'on a fait une différence en santé publique entre ce qui était stratégique puis opérationnel. On est déjà allé chercher des personnes qui avaient ce bagage opérationnel-là. J'ai parlé de Jérôme Gagnon qui s'est joint à nous, qui arrive de la sécurité publique il y a maintenant plus qu'un mois. Alors, on est en préparation depuis un bon bout de temps, puis on va être prêt, comme on est prêt pour la vaccination en ce moment, on va être prêt pour la vaccination de la COVID.
Sur un autre sujet, vous avez peut-être vu ce reportage hier soir sur l'hôpital régional de Saint-Jérôme où on apprenait qu'il y avait 277 personnes qui avaient attrapé la COVID à l'hôpital depuis le début de la pandémie. Ça a entraîné 76 décès. On fait état de chambres multiples qui ont été rouvertes, de civières à 30 cm les unes des autres à l'urgence. Comment se fait-il qu'on n'ait pas à Saint-Jérôme mieux appris les leçons de la première vague? Est-ce que vous avez l'intention d'intervenir? Et qu'en est-il aussi de l'échéancier de reconstruction de l'hôpital? Là, semble-t-il que ça ira pas avant 2029-2030? Ça semble extrêmement loin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour rapprocher l'échéancier?
Il y a deux choses. Premièrement, sur Saint-Jérôme, là, je pense, je vous rappelle, je suis déjà allé sur place là, dans le courant de l'été, là, tout de suite quand j'ai pris le mandat, parce qu'on savait que c'était un hôpital qui était problématique, qui était vieillot, puis qui avait eu les problèmes dans la première vague dont vous parlez. Donc, je suis allé voir sur place quel était l'enjeu. On a déjà fait un investissement là, qui est en train de se concrétiser présentement, qui est un investissement d'une modulaire pour agrandir la façon dont on va servir nos gens au niveau de l'urgence. Là, c'est en train d'être construit présentement, donc c'est pas dans des années, là, ça va être dans les prochaines semaines. Et troisièmement, ce qu'on est en train de voir, étant donné là, justement la vétusosité du nombre de chambres, comment on peut accélérer au niveau du PQI, là, ce qu'on pourrait faire pour être capable de rénover de façon importante là, l'hôpital de Saint-Jérôme. Alors, j'ai bien entendu les déclarations là, des derniers jours, mais pour nous, ce dossier-là, il est encore une priorité, pas encore plus une priorité en raison de sa vétusté.
Alain Laforêt, TVA Nouvelle.
Bon, je veux qu'on revienne un peu sur les précisions du premier ministre par rapport au contrat moral qu'il nous propose à nous, les citoyens. On dirait que plus on fait de précisions sur ce contrat-là, plus ça devient alambiqué. Pour vrai, puis j'en parlerai tantôt avec Victor Henriquez, qui est un spécialiste de gestion de l'image et de relations publiques. Là, à un moment donné, on s'y perd. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? On a 4 jours, mais on nous dit que dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est 2 jours. Après ça, on revient sur la quarantaine. On dit, ouais, mais si tu peux pas te mettre en quarantaine, c'est peut-être mieux que tu fasses pas de souper. C'est beaucoup de si, c'est beaucoup de on va laisser ça à votre discrétion. Et je pense qu'en termes de santé publique et de gestion de crise, pour vrai, là, le plus précis on est, le mieux le message, il passe. Et là, le message en ce moment, il est pas clair. Puis il est pas clair non plus pour les voyages, pour bien des Québécois. Là, j'en parlais plus tôt la semaine passée, des gens qui regardent du côté des Club Med, du côté des agences de voyage, des tout inclus, pour aller se réunir dans le sud. Là, on a été sans équivoque au niveau du gouvernement. Là, M. Legault, il l'a dit, j'ai bien de la misère avec ça, puis je pense qu'il n'est pas le seul. Là. Moi, ça fait pas de sens pour moi qu'on puisse être égoïste à ce point en ce moment, qu'on puisse décider d'aller voyager, mettre notre santé en péril, mettre la santé des autres en péril. Je veux bien croire qu'on peut faire une quarantaine en revenant, là, mais entre les deux, il y a quelque chose qui s'appelle un voyage en avion, des déplacements, puis des déplacements qui sont pas nécessaires. Le vaccin s'en vient. Là. T'sais, on peut être patient, on va revoyager, peut-être pas tout de suite, mais peut-être vaut mieux attendre que de faire face à des situations vraiment dramatiques comme on a connu au printemps dernier. On l'a souligné avec la relâche et tout, ça a explosé. C'est sûr, on n'est pas dans la même situation. Mais pour l'instant, ton petit voyage à Cancun, là, regarde tes photos sur Instagram de v'là 3 ans, puis rappelle-toi-en.